Deutsche Welle. Économie et développement.
Au Mozambique, la croissance économique atteint 7% par an. Le pays connaît un boom minier et immobilier. Et pourtant, il reste l'un des pays les plus pauvres du monde. La majorité de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Reportage dans un instant à Maputo pour cette nouvelle formule du magazine Économie et Développement. En seconde partie, nous parlerons de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, dont un réacteur avait explosé en 1986. 28 ans après l'une des pires catastrophes du XXe siècle, l'argent manque pour sécuriser les installations. Claire-Marie Costman au micro, bienvenue à toutes et à tous. Au Mozambique, pendant la campagne des élections législatives et présidentielles, plusieurs thèmes ont été au cœur des débats. La croissance économique, mais aussi les inégalités, la répartition des richesses et la lutte contre la corruption. Car si le pays connaît un boom économique, une majorité d'habitants n'en profite pas, loin de là. Notre reporter Patricia Huon s'est rendue sur place.
Maputo, la capitale mozambicaine, est en grand chantier. Hôtels, appartements, bureaux, centres commerciaux, les nouvelles constructions émergent au bord de l'océan Indien, au milieu d'un ballet de bulldozers. Jane Flood est guide touristique à Maputo et constate l'évolution.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités. D'ici, on peut apercevoir 6 grues. Il y a beaucoup de constructions d'immeubles, d'appartements, de bureaux. Ici, une nouvelle banque. Les Portugais construisent beaucoup, les Chinois aussi. Ils construisent un hôtel de plus de 500 lits près de l'océan. C'est un vrai boom.
Le Mozambique regorge de ressources naturelles et depuis 15 ans, le pays connaît une croissance annuelle de plus de 7%. Un élément pourrait encore stimuler cette croissance, la découverte de réserves de gaz récemment au nord du pays. Si grande que les experts estiment que le Mozambique pourrait devenir d'ici une dizaine d'années un des premiers producteurs mondiaux de gaz. Face à ces perspectives, les investissements étrangers explosent, comme le constate Colin Wo, consultant spécialiste des pays émergents.
On dit qu'avec ce qu'ils ont découvert, le Mozambique peut être le troisième producteur mondial. Ils ont besoin de capital. Donc il faut des partenaires financiers, il faut des partenaires techniques. Par exemple, avec le gaz naturel, ce qu'il faut pour la transformation du gaz pour le LNG, pour l'exportation, il faut des investissements de 2 milliards de dollars. Alors le Mozambique ne peut pas le faire seul. Ils ont besoin des coopérations internationales.
Des investisseurs dont l'arrivée a fait grimper les prix. Les expatriés sont de plus en plus nombreux à Maputo. Ils doivent se loger et la demande en hébergement haut de gamme a dépassé l'offre. Adrien Frey, agent immobilier.
De grosses sociétés s'implantent sur le marché avec de gros budgets. Et pour le moment, les prix sont gonflés. Pour un appartement de 3 chambres dans un immeuble neuf, cela peut atteindre 6 000 $. Cela a doublé au cours des 4 ou 5 dernières années. Ne vous méprenez pas sur le Mozambique. C'est un pays très pauvre, mais le marché haut de gamme grandit très vite.
Des loyers bien trop élevés pour la plupart des Mozambicains. À Maputo, beaucoup ont dû quitter le centre-ville pour s'installer en banlieue. Isaiah travaille depuis 6 mois sur le chantier d'un nouvel hôtel de luxe. Il est heureux d'avoir du travail, mais se plaint de l'inflation.
Le salaire minimum est de 3 000 meticaïs et un sac de riz coûte presque la moitié de ça. C'est très cher. On n'arrive pas à suivre avec un petit salaire. Je suis marié, j'ai des enfants. Je dois aussi louer un logement. Ce qu'on gagne n'est vraiment pas suffisant.
Si le potentiel est énorme, l'exploitation n'a pas encore commencé. Et selon l'économiste mozambicain Carlos Castelbranco, il y a beaucoup de spéculation.
Le Mozambique est tributaire des apports extérieurs de capitaux sous la forme d'investissements étrangers directs et de prêts des marchés financiers internationaux. L'État creuse le déficit public rapidement et en fait, nous garantissons cette dette avec des attentes de revenus qui n'ont pas encore été générés. Par ailleurs, les investissements étrangers au Mozambique tournent autour d'une structure de production très restreinte liée aux ressources naturelles. Bien sûr, cela fait grandir l'économie rapidement, mais cela ne règle pas le problème de la pauvreté, car cela ne permet pas de créer des emplois décents. Il y a un sentiment d'exclusion.
L'économie mozambicaine a deux visages. Plus de la moitié des 25 millions d'habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Devant une tour en construction, Olga, une mère de famille, vend du pain aux ouvriers.
Je ne vois aucun développement. Mes enfants ont fini leurs études secondaires et ils restent à la maison. Ceux qui peuvent aller à l'université sont ceux qui ont de l'argent. Ma famille vit dans la misère. Ici au Mozambique, il n'y a rien, seulement la corruption.
Pendant la campagne électorale, la redistribution des richesses et la corruption ont été au cœur des débats. Les dirigeants du Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, ont tous des intérêts dans des sociétés privées. Edson Cortez, du Centre d'intégrité publique de Maputo, a réalisé plusieurs études sur les liens entre les élites politiques et le monde des affaires.
Le président, les ministres, les hauts fonctionnaires, tout le monde a des intérêts financiers. L'implication des élites politiques dans les affaires a commencé avec le secteur des transports. Aujourd'hui, il s'agit des ressources naturelles. Sans connexion politique ici, pas d'attribution de gros contrats. S'il y a un appel d'offres publiques, par exemple, c'est celui qui a des relations qui l'aura, même si une autre société propose un meilleur prix et pourrait bien faire le travail. La corruption est devenue un mode de vie au Mozambique.
Le principal défi du futur président sera maintenant de faire en sorte que le boom économique profite non plus seulement à une élite, mais à tous les Mozambicains. Patricia Huon, de retour de Maputo pour la Deutsche Welle.
N'oubliez pas, vous pouvez entendre le reportage économique « L'Afrique qui bouge » dans la matinale, le mardi, sur la Deutsche Welle, à partir de 7h19 en temps universel. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en ex-URSS explosait. Un immense incendie se déclarait et un nuage radioactif commençait à s'élever. Il contaminera en particulier l'Ukraine, où se trouve aujourd'hui le site de la centrale, la Russie et la Biélorussie, avant de survoler toute l'Europe de l'Ouest. Après l'explosion, environ 600 000 soviétiques, appelés les liquidateurs, ont été envoyés dans la centrale pour tenter de contenir la radioactivité. Le bilan est terrible, nombre d'entre eux sont morts, ainsi que des pompiers et des habitants en offrant leur aide. Et encore aujourd'hui, les conséquences sont importantes. Selon l'ONG Greenpeace, la contamination radioactive qui a entraîné notamment des cancers pourrait causer entre 100 000 et 400 000 morts dans les trois ex-républiques soviétiques les plus touchées, sans oublier des hectares de terre et les cours d'eau contaminés par les substances nocives. Mi-octobre, les ministres chargés de l'énergie des pays du G7, les plus puissants du monde, se sont réunis ici, à Bonn, en Allemagne, au sujet du nucléaire. Car si la centrale de Tchernobyl a cessé de fonctionner en 2000, la radioactivité est là pour des centaines d'années. Il faut construire une nouvelle enceinte de confinement pour protéger le sarcophage déjà existant autour du réacteur numéro 4 de Tchernobyl. Le consortium européen Novarca, qui regroupe des entreprises de BTP, notamment françaises, a commencé le chantier il y a 2 ans. Un chantier jamais vu et qui comporte des incertitudes, rappelle Johann Flasbart, le secrétaire d'État allemand du ministère de l'Environnement.
Dans ce cas, on ne peut vraiment blâmer personne. Il n'y a jamais eu de telle réalisation auparavant. Il s'agit d'une construction extraordinaire qui est faite là-bas. Il existe des incertitudes simplement en raison du fait qu'il n'y a tout simplement pas eu de précédent pour un tel bâtiment.
Imaginez une arche de béton et de métal de 250 mètres de portée et de 108 mètres de hauteur qui est en train d'être construite. Elle pèsera 18 000 tonnes. Le coût est évalué à 1,5 milliard d'euros. Seule une partie de la structure est achevée. Or, il manque 600 millions d'euros d'ici la fin de l'année pour continuer les travaux censés s'achever l'an prochain. Jörn Flasbart le reconnaît, l'arche de protection ne pourra pas être livrée dans les temps.
Le chantier va prendre du retard. Il va prendre plusieurs années supplémentaires. Mais nous sommes certains d'avoir obtenu les contrats appropriés pour que le chantier soit terminé dans les 4 ou 5 prochaines années.
L'Allemagne a mis la main au porte-monnaie. Berlin a accordé cette année 80 millions d'euros pour le chantier et plus de 7,5 millions d'euros ont été ajoutés au budget de l'an prochain. L'Italie, les États-Unis ou le Canada seraient aussi prêts à mettre la main à la poche quand la France ou la Grande-Bretagne seraient réticents. Tchernobyl se trouve à 800 km de Donetsk où ont lieu les combats entre armées régulières et séparatistes pro-russes. Mais le conflit qui se déroule dans l'est de l'Ukraine ne devrait pas compliquer encore davantage les relations entre les États. C'est en tout cas ce qu'affirme Tobias Münchmeier. Il est expert en énergie nucléaire à l'ONG Greenpeace.
En fait, cette nouvelle situation géopolitique ne devrait pas avoir de conséquences sur l'arche de protection de Tchernobyl. Le seul bémol peut-être, c'est que la Russie, qui a fait une contribution relativement faible, ne veuille plus continuer à participer. Mais l'essentiel du budget et des entreprises impliquées ne sont pas russes, mais ils proviennent des pays de l'Ouest qui peuvent et doivent aller de l'avant. On peut aussi dire que, vu cette situation politique difficile, la solidarité avec l'Ukraine est particulièrement importante.
Mais il reste quand même une difficulté de taille, celle de mobiliser les pays du G7 plus préoccupés par la guerre qui se déroule dans l'est de l'Ukraine ou en Syrie que par la construction d'une nouvelle protection au-dessus de la centrale de Tchernobyl. Merci à Jens Thurau pour les interviews. Pour réécouter ce magazine, rendez-vous sur notre site dw.de/français, rubrique médiathèque, et pour nous écrire français@dw.de. Prochain numéro du magazine Économie et Développement, jeudi, à partir de 17h42. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.